Bonsoir et bienvenue à cette tribune de la presse hebdomadaire sur Radio Capi. Nous sommes le vendredi 28 novembre 2008. Au cours de cette émission, nous reviendrons avec une consoeur et deux confrères sur quelques faits d'actualité ayant marqué cette semaine. Nous en avons choisi trois. L'assassinat le vendredi 21 novembre dernier à Bukavu, au sud Kivu, de notre confrère Didas Namujimbo. Il était journaliste à la station provinciale de Radio Capi à Bukavu. La publication cette semaine par l'ONG de défense des droits de l'homme Human Rights Watch d'un rapport sur la situation des droits de l'homme à Kinshasa et au Bas-Congo au cours des deux années qui ont suivi les élections de 2006. Ce rapport impute la responsabilité aux forces de sécurité de l'État, la mort de plus de 500 personnes et l'arrestation et la détention arbitraire d'un millier d'autres, accusations rejetées par le porte-parole du gouvernement congolais. Et dans notre troisième thème, nous aborderons le refus du gouvernement congolais de recevoir en renfort aux troupes de la MONUC au Nord-Kivu des casques bleus provenant d'un certain pays sans préciser lequel. Pour en parler, nous avons invité une consoeur et deux confrères, Paulette Chimoutou de Couleur TV, une chaîne de télévision de Kinshasa, Félix Sabouzi, directeur de publication du quotidien chinois La Référence Plus, et depuis Mbujimaï au Kasaï Oriental, interview au téléphone Pascal Manchimba, journaliste de la radio-télé Océan Pacifique. L'assassinat vendredi dernier à Bukavu, au sud Kivu, de notre confrère Didas Namujimbo, la publication d'un rapport de l'ONG Human Rights Watch sur la situation des droits de l'homme à Kinshasa au Bas-Congo, deux ans après les élections de 2006 en RDC, et le refus par le gouvernement congolais de recevoir sur son sol, en renfort aux troupes de la MONUC au Nord-Kivu, des casques bleus provenant d'un certain pays, sans préciser lequel, tels sont quelques faits traités par la presse chinoise cette semaine. Comment a-t-elle traité ces faits? Notre confrère Pierrot Elamegi a lu pour vous quelques journaux et nous les dit dans cette revue de presse.
Bonsoir. Les principaux journaux de Kinshasa ont commenté cette semaine l'assassinat de Didas Namujimbo, journaliste de la radio Okapi. Le Phare du lundi dernier écrit « Le meurtre de Didas Namujimbo est une parfaite illustration du calvaire du journaliste congolais ». Le quotidien ajoute que ce meurtre, vraisemblablement prémédité, relance le débat sur la sécurité des journalistes. Évoquant les enquêtes qui sont menées sur cet assassinat, la tempête des tropiques du lundi dernier estime que l'implication du chef de l'État est recommandée pour que cesse l'impunité. Cette semaine, les journaux chinois se sont également penchés sur le dernier rapport de l'ONG Human Rights Watch sur les violations massives des droits de l'homme en RDC. Dans sa une du jeudi dernier, le potentiel estimait qu'il est important que l'on analyse en profondeur la fréquence de ces accusations ainsi que l'ampleur qu'elles prennent chaque jour qui passe et surtout punir les coupables. Hier jeudi, la référence plus indique qu'en rejetant en bloc les allégations de Human Rights Watch, les officiels du gouvernement congolais ont affirmé qu'en RDC, une nette amélioration des droits de l'homme s'observe. Le refus du gouvernement congolais du déploiement des troupes indiennes en renfort à la MONUC a retenu l'attention des journaux chinois cette semaine. Dans sa parution d'hier jeudi, le Phare estime que cette position aura des effets inattendus car elle va certainement retarder l'envoi de ses contingents supplémentaires. Pour sa part, Ouru de ce vendredi estime que le refus de la RDC à l'égard de l'Inde risque de compromettre la démarche d'envoi des troupes supplémentaires. Le quotidien ajoute que plus on met du temps à tergiverser, plus les souffrances des populations de l'Est ne font qu'empirer.
Je me tourne directement vers vous, Paulette Kimoutou. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes de Couleur TV, une chaîne de télévision émettant à partir de Kinshasa. Un petit commentaire peut-être par rapport au traitement de ces faits d'actualité par les journaux congolais. Est-ce que vous estimez que ces faits ont suffisamment été traités ou il y avait d'autres faits beaucoup plus importants, peut-être que la presse chinoise n'a pas traité?
Moi, je trouve que la presse a bien traité ce sujet. Quand j'ai dit bien, c'est qu'on en a parlé quand même, on en a fait mention dans les journaux, mais on n'a pas vraiment tapé dessus. Parce que maintenant, il paraît, je ne sais pas, presque normal, entre guillemets, qu'un journaliste meure. Donc, il y en a même qui disent dans le quartier que c'est le risque du métier, nous sommes comme des soldats, donc ça peut arriver qu'un journaliste meure. Donc, c'est quasiment normal, entre guillemets, qu'un journaliste meure à cause de son travail. Mais je crois qu'on n'a pas trop enfoncé, on n'a pas trop dit on n'a pas trop mis l'accent sur,
les assassinats des journalistes.
Voilà, des journalistes. C'est les calvaires que vivent les journalistes en général.
Oui, justement, on en parlera dans notre premier temps. Félix, peut-être un petit commentaire. Est-ce que vous estimez que la presse a suffisamment parlé, notamment de l'assassinat de notre confrère Didas Namujimbo, une fois de plus, hein, un journaliste assassiné en 16 mois?
Oui, je crois que les journaux se sont un peu plus limités au courant de la semaine sur des faits, c'est-à-dire les dépêches qui sont venues notamment de Radio Okapi, puisque pour la plupart, nos journaux n'ont pas, si vous voulez, de correspondants à l'intérieur du pays, et d'autant plus qu'il n'y avait pas encore d'éléments nouveaux au niveau des enquêtes. Je crois que les journaux se sont un peu plus limités à livrer l'information et à peut-être tirer, si vous voulez, la sonnette d'alarme sur la répétition, n'est-ce pas, des assassinats et de meurtres contre des hommes de l'IGIA.
Est-ce que peut-être les journaux se sont gênés de parler de la presse? Peut-être que s'ils mettaient beaucoup plus d'accent sur cet assassinat, beaucoup plus que sur peut-être la situation des droits des hommes telle que publiée dans cette dans ce rapport de l'ONG Human Rights Watch, et peut-être que la presse n'a pas plus insister sur ça pour éviter de parler d'elle-même.
Non, les journaux en ont parlé. On a par exemple publié les réactions de GED qui a établi, si vous voulez, des statistiques macabres sur le nombre de journalistes tués dans notre pays. On a publié également les premiers témoignages sur les circonstances de la mort de Didas Namujimbo en insistant sur ce regain d'insécurité qui frappe finalement, ou qui semble viser, je dirais, mon confrère de Radio Okapi, puisque les journaux ont rappelé que 15 ou 18 mois plus tôt, c'est son rédacteur en chef dans la même station de Bukavu, Serge Maïché, qui était assassiné presque dans les conditions
inhumaines. Il n'était pas rédacteur en chef, hein, il était secrétaire
de rédaction. Donc voilà, la presse a relevé tous ces éléments-là, en fait pour dire tout simplement qu'on commençait à prendre une tournure totalement dangereuse dans le meurtre contre les journalistes.
Nous allons nous rendre maintenant à Mbujimayi, dont intervient notre confrère Pascal Manchimba. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes journaliste de la radio télé Océan Pacifique. Est-ce que chez vous, quand même, les journaux continuent à paraître?
Les journaux paraissent, mais avec beaucoup de difficultés. Comme vous le savez, nous sommes à l'arrière du pays. Et le problème d'impression pour les journaux, c'est un véritable calvaire, il faut aussi le dire. Mais justement,
on n'est pas encore dans le premier terme. Alors, comment avez-vous trouvé le traitement de quelques faits d'actualité sélectionnés par la presse chinoise?
Oui, c'est vrai, la presse chinoise a traité l'information, mais il faut aussi dire que la presse chinoise n'a pas tenu compte de ce qui se passe à l'intérieur de la province.
En Bujimaï, par exemple.
Par exemple, et dans d'autres provinces, parce que en Bujimaï, par exemple, il y a eu la réaction de la presse qui a condamné cet acte, qui a fait des déclarations, qui a même écrit à l'autorité provinciale pour demander l'implication des autorités de manière à protéger les journalistes. Mais ces faits n'ont pas été relevés par la presse chinoise. On comprendrait peut-être que la presse chinoise a plus les yeux tournés vers ce qui se passe à Chine qu'à l'intérieur de province.
Je rappelle également à nos auditeurs que nous tentons de temps en temps d'inclure aussi dans la revue de presse les journaux de l'intérieur du pays. Malheureusement, ils ne paraissent pas toujours régulièrement, ce qui fait que nous nous contentons des journaux qui nous sommes déjà dans le premier thème sur l'assassinat de notre confrère Didas Namujimbo. Plusieurs réactions ont été enregistrées pour dénoncer un assassinat de plus d'un journaliste en l'espace de 16 mois. Et c'est le cas de la présidente de l'Union nationale de la presse du Congo. Pour Chantal Kanimbo, ce énième assassinat est une chose qui ne devrait plus arriver en RDC. À cet effet, l'UNPC compte utiliser toutes les voies démocratiques pour que pareil crime n'ait plus lieu. Chantal Kanimbo était jointe cette semaine au téléphone par notre consoeur Thérèse Bassoubi.
Nous étions convaincus que plus jamais cela ne pourrait nous arriver. Après les assassinats de Frangiki, Bapoua Mamba, Serge Maïssé, Patrick Kikoukou, franchement, j'ai été très très choquée d'apprendre l'assassinat de la famille Didas.
pour Radio Capi, c'est le deuxième journaliste qui vient de perdre sa vie dans l'exercice de ses fonctions. Que compte faire l'UNPC?
Immédiatement, nous dénonçons ces énièmes assassinats d'un journaliste congolais et ensuite nous allons inviter toutes les organisations gouvernementales pour examiner, voir quelles actions nous pourrons éventuellement mener pour dénoncer cet énième assassinat. Vous savez, nous n'avons que des moyens démocratiques pour nous exprimer et nous allons utiliser tous les moyens démocratiques de manière à assurer la sécurité des journalistes et de tous les Congolais d'une manière générale.
Voilà, Paulette Kimuntu, vous êtes journaliste, l'un des nôtres a été assassiné, un de plus, comme nous le disons. En tant que journaliste, qu'est-ce que cela pose comme problème ici en RDC?
Un problème de la liberté d'expression. Je ne sais pas quel est le soubassement, les motifs réels de son assassinat.
Les enquêtes continuent encore.
Non, dans les enquêtes continuent, mais je pense que cela pose un problème de la liberté de la presse. Est-ce qu'on peut s'exprimer librement? On a des fois peur de parler parce que les conséquences, on ne sait pas trop ce que ça se passait. Donc cela restreint un peu notre liberté de parler. Cela fait mal. Hein. Ça fait peur aussi. Est-ce que cela inciterait-il les jeunes à exercer encore ce métier quand on sait que chaque année, il y a des morts, il y a des journalistes qui meurent. Est-ce que les jeunes auront encore envie de faire ce métier avec cette épée de Damoclès sur la tête? Donc c'est ça le souci que j'ai par rapport à ce métier que j'aime beaucoup.
Est-ce que cela devrait pousser les journalistes à s'auto-censurer ou cela devrait plutôt les encourager à aller de l'avant dans leur métier? Parce que vous avez parlé de peur, hein. Les journalistes, je les sais, reçoivent des menaces, des SMS, des appels anonymes. Est-ce que cela devrait pousser les journalistes à aborder certains thèmes et d'autres non?
Oui, comme il y a de l'autocensure, ça existe. Hein. Il y a certaines choses selon le climat politique de l'heure. Il y a certaines choses où on peut utiliser d'autres expressions, pas le dire clairement. Il y a d'autres expressions à qui le comprendra. Donc, on peut peut-être pas dire chat. Donc, on cherche d'autres tournures pour essayer d'exprimer ce qu'on veut dire. Et
ça, c'est aussi mettre en péril et la démocratie et la liberté de la presse.
Voilà, donc je crois que on essaie de survivre.
Merci pour beaucoup, Paulette Kimuntu. Je rappelle que vous êtes journaliste au sein de Couleur TV, une chaîne de télévision de Kinshasa, et vous présentez un magazine où vous recevez des hommes politiques.
Pas seulement des hommes politiques, parce que ça, c'est une mauvaise idée qu'on dit souvent. Ceux qui ne réussissent à Kinshasa, c'est pas seulement des hommes politiques. Je reçois l'élite de notre pays, donc il n'y a pas que les hommes politiques qui sont intelligents dans notre pays. Donc je reçois tout le monde. La matière grise de notre pays, en tout cas.
Merci beaucoup. Félix Kabouzi, je rappelle que vous êtes directeur de publication du quotidien Kinoa, La Référence Plus. Un assassinat de plus parmi les journalistes. Vous êtes l'un des doyens de la presse, vous avez plus de 20 ans de métier. Je ne sais pas, qu'est-ce que cela vous fait? Il faut que les journalistes commencent à s'auto-censurer, aborder certains thèmes et d'autres non.
Non, je crois que Paulette a dit pratiquement le sentiment général dans la profession. Elle a épinglé la peur, elle a épinglé l'autocensure, elle a épinglé le sentiment de révolte. Je voudrais juste ajouter que ça consacre le recul vraiment de la démocratie et de la liberté de la presse dans notre pays, puisque, comme vous l'avez dit, je suis dans la profession depuis une vingtaine d'années. C'est pratiquement pour la première fois, en tout cas, qu'on enregistre autant de meurtres contre les journalistes.
C'est pourquoi c'est Mathieu Aboukavu, des journalistes.
Oui, deux à Aboukavu, deux à Kinshasa, au Katanga et je crois à Bunia aussi. Et donc, un total de six journalistes tués en 3 ans, ce qui donne, si vous voulez, la fréquence d'un journaliste tué tous les 6 mois. On n'a jamais connu ça. On n'a vraiment jamais connu ça, ni du temps de Mobutu, ni du temps de Laurent Désiré Kabila.
Et par quoi peut-on l'expliquer?
Bon, justement, c'est ça l'inquiétude au niveau de la profession, puisque on n'a jamais du tout mis la main sur le commanditaire, on n'a jamais explicité ces meurtres. On organise des simulacres de procès où on présente des auteurs de ces crimes, mais on ne révèle pas leur mobile. On ne dit pas exactement pour quelle raison, par exemple, Fadik a été tué sa femme. On ne nous dit pas aujourd'hui, en tout cas, l'enquête n'a pas révélé exactement les commanditaires de meurtre de Serge Maïché. Et la raison pour laquelle il a été abattu.
Bafou Amomba, Bandingé, Batikou, où il n'y a même pas eu de procès.
Voilà, cela. Donc tout cela constitue vraiment un recul et c'est extrêmement dangereux pour la profession. Comment voulez-vous, dans ce sentiment où tous les 6 mois on voit un journaliste abattu, que vous ayez le courage par exemple, de publier le rapport de Human Rights Watch. Tous les journaux ont reçu ça. Moi, j'étais à la conférence de presse, mais observez tous les organes de presse qui sont sortis à Kinshasa cette semaine. Aucun n'a eu le courage de publier ce rapport.
Radio Capi en a parlé.
Non, Radio Capi, nous, on a fait un résumé, si vous voulez, mais on n'a pas publié intégralement comme les journaux qui n'ont toujours l'habitude. Chaque fois qu'on publiait des rapports sur la situation à l'Est ou le pillage des ressources, les journaux consacrent même 3, 4, 5 éditions pour publier intégralement ce genre de rapport, mais ici on ne l'a pas fait, tout simplement parce qu'on est pris de peur. Donc ça, c'est vraiment un sentiment, disons, un développement que je regrette beaucoup dans l'exercice de notre profession.
Merci beaucoup. Pascal Manchimba, votre réaction par rapport à ce énième assassinat d'un journaliste congolais. Est-ce que en Mbujimayi, les journalistes vivent aussi dans une sorte d'insécurité, de peur?
Oui, c'est naturellement insécurité, la peur, mais aussi la désolation. Comment voulez-vous, alors que notre pays s'engage sur la voie de la démocratie, et les assassins et tous ces gens qui sont derrière de tels actes ne comprennent pas que nous avons pris une nouvelle voie qui est celle de la démocratie et cherchent à étouffer la démocratie. L'expression du journaliste, notre confrère aujourd'hui regretté, Didas Namujimbo, son expression vis-à-vis d'un certain groupe de gens qui ont trouvé qu'il était derrière leurs méfaits. Je crois que ce qu'ils ont posé comme acte a plus parlé du travail du journaliste. Le travail du journaliste qui était celui de dévoiler les méfaits et en fait travailler pour l'expression de la vérité. Ce qui est arrivé à notre confrère certainement est ressenti avec beaucoup de peine par toute la presse du Café Oriental qui ne comprend pas que de tels actes continuent. Et plus grave, on s'est dit, mais qu'est-ce que la MONUC a pu faire pour notre confrère? Parce que dans les circonstances dans lesquelles est arrivée cette mort, ce sont là des circonstances qui, en fait, poussent les journalistes du Café Oriental à se poser la question de savoir mais pourquoi on n'a pas pu prendre des précautions pour que notre confrère puisse aujourd'hui partir et laisser sa famille, ses amis. Ce qu'il faut dire est que la presse...
On ne prévoit pas la mort, hein, et encore moins les assassinats, hein, surtout quand c'est prévu par des personnes mal intentionnées. Hein.
Oui, justement, parce qu'il faut aussi sécuriser les journalistes. Ça, c'est vrai, c'est la responsabilité du pouvoir, c'est la responsabilité des organes qui nous emploient, etc. Peut-être par la manière de nous aider à traiter certaines informations, mais du point de vue sécurité, je crois que si notre confrère était, par exemple, dans un véhicule, il ne serait pas abattu à plus ou moins 50 mètres de sa résidence.
Pascal Manchimba, quand on voit par exemple des procès tels que celui de Patrick, de notre confrère Patrick Kikuku, qui n'ont jamais eu lieu, est-ce que cela ne pousse pas les tueurs à assassiner encore des journalistes parce qu'ils savent que s'ils le font, peut-être qu'il n'y aura pas de procès, il n'y aura pas de poursuites, ou il n'y aura pas du tout de vrai procès, ça sera des simulacres de procès?
Bon, en fait, je ne peux pas parler des simulacres de procès. Je ne pense pas que la justice congolaise puisse, pour le cas d'assassinat, le cas de tuerie des journalistes, puisse vouloir se livrer à chaque fois à des simulacres de procès.
Parce que pour le cas Serge Maheshe, toutes les voies n'ont pas été utilisées pour enquêter.
Bien sûr que oui, mais vous savez que quand quelqu'un a commis son forfait, peut-être il l'a commis dans le noir et il faut rechercher les traces et il faut aussi voir l'efficacité de nos services judiciaires, de quelle manière on mène des enquêtes pour certainement arriver à dénicher le coupable, à dénicher les assassins. Moi, je crois que ce qui est arrivé à notre confrère, c'est un acte crapuleux, regrettable, parce que nous ne savons pas quel sera notre sort demain. Parce que tout le monde te dit, je vais donner telle information, je vais donner telle autre, peut-être que c'est mon tour demain.
À qui le prochain tour, hein, c'est ce que vous voulez dire?
Bien sûr, à qui le prochain tour. Mais ça nous inquiète, certainement.
Merci.
Ça nous inquiète, mais nous disons qu'il faille aussi que le pouvoir, les organes qui nous utilisent puissent aussi veiller à notre sécurité.
nous allons passer à notre deuxième thème au cours de cette semaine. L'actualité, c'était aussi la publication par l'ONG de défense des droits de l'homme, Human Rights Watch, d'un rapport sur les droits de l'homme à Kinshasa et au Bas-Congo, 2 ans après la tenue des élections de 2006. Ce rapport met en cause les forces de sécurité congolaises dans la mort de plus de 500 personnes et la détention arbitraire de près d'un millier de personnes. Ce rapport établit que les agents de l'État ont particulièrement pris pour cible les personnes originaires de la province de l'Équateur ainsi que des adhérents du mouvement politico-religieux Bundu dia Congo, un mouvement interdit par le gouvernement congolais. Anneke van Woudenberg, chercheuse senior à la division Afrique de Human Rights Watch, était au micro cette semaine de notre consoeur Julie Laure-Mbaliboto.
Les gens de l'Équateur, et spécifiquement les tribus Ngwaka, étaient visés parce que, selon les agents de l'État, c'était des gens qui étaient avec l'ancien vice-président Jean-Pierre Bamba. Donc, pour les autorités, c'est des gens qui étaient des opposants. Les autres gens qui étaient visés, c'était les gens du Bas-Congo et spécifiquement de Bundu-Dia Congo, qui étaient pris aussi comme opposants. La plupart des fonctionnaires de l'État avec qui Human Rights Watch avait discuté avait nié qu'il y avait des meurtres, avait nié qu'il y avait de la torture, avait nié qu'il y avait des arrestations arbitraires. Mais les preuves sont là. Ils avaient essayé de couvrir un peu les actions. Alors plusieurs de corps qui étaient jetés dans le fleuve, d'autres corps qui étaient enterrés dans des fosses communes en secret.
Et par la bouche de son porte-parole, le gouvernement congolais a rejeté ce rapport. Écoutons à ce sujet Lambert Mende, ministre de la Communication et Médias et porte-parole du gouvernement. Il a été joint au téléphone cette semaine par notre consoeur Marie-Chantal Lumba.
Je peux qualifier d'emblée d'un tissu d'approximation sans beaucoup de fondement parce qu'on ne donne aucun élément de preuve. On a l'impression qu'il y a une volonté manifeste de cette ONG que nous respections beaucoup pourtant jusqu'à présent de justifier une quête de financement pour continuer à travailler en République démocratique du Congo parce que s'il n'y a pas d'énonciation de faits graves, il n'y a probablement pas de sponsoring. Nous faire tomber du ciel des révélations de cette nature et surtout impliquer notre président dont tout le monde connaît les motivations profondes au respect des droits de l'homme. Donc il ne faut pas nous faire croire ici que rien n'est fait parce que ça pourra faire la paire d'une ONG qui voudrait avoir de l'argent. Notre peuple n'est pas là pour servir de vache à lait à certaines ONG.
Donc quand même, vous reconnaissez qu'il y a certaines choses qui se passent.
Mais bien sûr que nous reconnaissons, mais nous disons en même temps que nous gérons ce qui se passe et en tout état de cause, ce qui se dit ici a été délibérément exagéré pour trouver des financements pour cette ONG.
Je me tourne une fois de plus vers vous, Paulette Kimuntu. Votre réaction par rapport à ce rapport qui donne des chiffres assez inquiétants. 500 morts attribués aux forces de sécurité et un millier d'arrestations arbitraires au Bas-Congo et à Kinshasa.
Ma première réaction, c'est que ça fait froid au dos, que ça soit vrai ou faux, mais ça fait froid au dos avec de tels chiffres. Et ce qui me fait dire, ou ce qui me fait penser à un déficit communicationnel de notre part aussi. Parce que je me demande si des ONG comme ça travaillent chez nous et parviennent à rédiger de tels rapports, qu'est-ce que nous faisons en retour? Il y a vraiment un déficit communicationnel de la part de notre gouvernement et ça se voit. Hein. Moi,
donc le gouvernement n'a pas réagi énergiquement
si,
en donnant
le
des
gouvernement points. Réagit toujours après un rapport. Et donc, quand on dénonce quelque chose, le gouvernement réagit. Mais ça fait quand même froid au dos qu'on dise du mal comme ça du gouvernement, de notre président, ça fait mal.
Est-ce que c'est fiable d'après vous ce rapport?
On est des journalistes, hein. Donc les Occidentaux ont un autre regard par rapport à l'Afrique, ils ont une vision qui leur appartient. C'est à nous aussi de faire le plus gros du travail aussi. Parce que, mon cher confrère, regarde un peu ce qui se passe. Moi, ça me fait mal, par exemple, ce qui se passe à l'Est, que des chaînes de télévision tout à fait sérieuses chez nous prennent le relais de France 24 ou de TV5. Qu'est-ce qui manque pour que nous puissions envoyer nos propres journalistes sur le terrain
pour qu'ils aient leur propre vision des choses. Parce que les Occidentaux, qu'on le veut ou pas, c'est leur vision. Ils ne montreront que le côté négatif des choses. C'est ça l'info, on le sait.
Mais est-ce qu'il n'y a pas de torture ici? Il n'y a pas d'arrestation arbitraire?
On ne sait pas.
Il y a des prisons secrètes, vous savez. Il y a des gens qui sont
Les Occidentaux n'ont pas à nous dire. Ça existe aussi chez eux, hein, les prisons secrètes, des choses comme ça, ça existe. Mais ça fait mal que ce soit tout le temps des organismes internationaux qui viennent nous balancer ça en pleine figure, chaque fois. Ça, on dirait que. Moi, je plains simplement un déficit communicationnel de notre part.
Mais les faits, ils sont vraisemblables ou invraisemblables?
Je le trouve un peu invraisemblable. Tout rond, des chiffres tout ronds, comme a dit le gouvernement, je trouve que c'est un peu invraisemblable. Parce qu'il y a un fond de vérité, je pense. Il y a toujours un fond de vérité.
Donc vous rejetez ce rapport, hein?
Je ne rejette pas. Mais je dis que les Occidentaux, ils aiment trop aggraver. Quand il s'agit de l'Afrique, ils aggravent toujours, ils alourdissent les choses. Et puis, il y a peut-être un fond de vérité, mais. Il est un peu trop embelli, quoi, je trouve.
Merci. Félix Kabouzi, comment vous trouvez ce rapport 2 ans après les dernières élections? Quand on lit ce rapport, on a l'impression que il n'y a pas eu beaucoup d'avancées sur le plan du respect des droits de l'homme en République démocratique du Congo.
Bon, moi, j'ai lu entièrement le rapport de Human Rights Watch. Ça fait un texte, un document de 96 pages. Et ce que je devrait dire, c'est qu'en fait, la plupart des informations contenues dans ce rapport sont des informations connues. Des informations qui ont été largement exploitées d'abord dans le rapport de la MONUC, qu'on a publié, je crois, il y a 2-3 mois. Des informations qu'on retrouve dans le rapport de l'Assemblée nationale, qui avait également diligenté, si vous voulez, une enquête, qui avait été appelé, vous vous rappelez, le ministre de l'Intérieur, Denis Kaloumé, qui s'était même expliqué avec Mémoine Dansemi, le responsable de Bundu Dia Congo.
Lorsque le rapport de l'Assemblée provinciale du Bas-Congo, qui avait parlé de charniers, voilà. De fosses communes.
Voilà, exactement. Donc, par exemple, si on parle de chiffres. Le rapport de Human Rights Watch pour la situation du Bas-Congo évalue à plus ou moins 200 morts. Mais on sait que le rapport de la MONUC parlait de plus ou moins 104 morts. Donc, on voit déjà que il y a quand même, si vous voulez, les faits restent plus ou moins vrais. Hein? Il peut arriver qu'il y ait divergence par rapport aux chiffres. Par exemple, le rapport dit ici, et ce qui était vrai, les enquêteurs de la MONUC n'ont pas pu accéder à certaines régions, et le rapport du Manorot a pris un long moment par rapport à l'enquête de la MONUC. Donc je pense que, de manière générale, les faits qui sont décrits dans ce rapport se recoupent par rapport à certains autres rapports, notamment celui de la MONUC, de l'Assemblée provinciale du Bas-Congo et de l'Assemblée nationale, et même de nos propres publications, nous, les journalistes. Et même le rapport du gouvernement, par exemple, pour le Bas-Congo, le gouvernement avait parlé de 23 morts. Mais tous ceux qui sont passés par le Bas-Congo, en tout cas, avaient témoigné qu'il y avait des morts un peu partout, dans plusieurs villages, de Kasangoulou ici, pratiquement jusqu'à Moanda.
Et concernant les arrestations des originaires des provinces de l'Équateur, qui sont ciblées, parce que certains d'entre eux appartiennent à la même tribu que l'ancien vice-président Jean-Pierre Bemba, c'est ce que dit ce rapport de Human Rights Watch. Est-ce que vous trouvez que c'est vraisemblable ou c'est un peu exagéré aussi?
Non, je ne peux pas dire que tous les chiffres avancés dans ce rapport-là sont extrêmement sûrs, mais quant aux arrestations des originaires de l'Équateur, il y a pas plus tard qu'il y a un mois, un groupe de députés de l'Assemblée nationale originaire de l'Équateur ont protesté, ils ont publié une déclaration dans la presse où ils dénonçaient l'arrestation au mois d'octobre dernier d'une vingtaine de ressortissants de l'Équateur. Et on sait que effectivement pendant la période qui a suivi les affrontements du mois de mars 2007, il y a eu une vague d'arrestations et des militaires et de certaines personnes qui étaient dans l'entourage de la vice-président Bemba. Mais je ne peux pas dire que tous les chiffres qui sont contenus dans ce rapport-là sont entièrement vrais, mais les faits, pour autant qu'on a eu à suivre ces éléments, que ce soit ici à Kinshasa ou dans le Bas-Congo, à travers des publications antérieures, les faits demeurent, à mon avis, tout à fait vrais.
En 30 secondes, avant de passer la parole à notre confrère Pascal Manchimba, qui intervient à partir de Mbujumas, en lisant ce rapport, est-ce que, d'après vous, il y a eu quand même avancé sous le plan du respect des droits de l'homme en RDC depuis les dernières élections de 2006?
Non, vraiment, on n'a pas du tout avancé. On n'a pas du tout avancé. Il suffit de voir, par exemple, aujourd'hui, la situation que vivent les opposants dans leur possibilité d'accéder aux médias publics. Vous savez que
notamment à la radio,
ils n'accèdent pas.
qui n'accèdent pas. Il y a Mokia qui a été arrêté pour des raisons qui ne sont pas connues. Dernièrement, j'ai suivi ça avant-hier, le secrétaire général du MLC, François Mwamba, a sollicité officiellement de la police des gardes pour l'accompagner dans le Bas-Congo. Il s'y est rendu, arrivé là-bas, dès qu'on s'est rendu compte que le MLC était très puissant dans le Bas-Congo, on lui a retiré tous les 3 ou 4 gardes du corps qu'il avait. Ce sont des choses qui ne peuvent pas exister en démocratie.
Pascal Manchimba, comment réagissez-vous face à ce rapport de Human Rights Watch? Un rapport qui a été contesté par le gouvernement congolais.
Je dis que je n'ai pas eu malheureusement l'occasion de lire le rapport, mais ce que je peux dire est que je suis un tout petit peu piqué par la manière dont pratiquement les ONG internationales essayent un peu de traiter les informations dans notre pays, essayent un peu de ramasser les données d'une façon à envenimer la situation. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de dévis qui ont été conduits à tous les niveaux pratiquement, mais il y a des déclarations qui ne peuvent pas être retenues et imputées à des personnalités politiques. S'il faut comprendre, on nous avance ici un chiffre de 500 personnes tuées par les services de sécurité. Si on impute ce chiffre, par exemple, à des situations de troubles intervenues, par exemple, dans le Bas-Congo et par-ci, par-là, ça pourrait se comprendre dans la mesure où, quand il y a des troubles, évidemment, il manque jamais de cash. Mais quand, par exemple, on commence à régionaliser le problème, dire que le chef de l'État opposé par exemple aux originaires de l'Équateur parce qu'elles sont de la tribu du vice-président Jean-Pierre Bemba, mais ce sont des choses que nous apprenons tout de suite là, parce que quand nous essayons de d'analyser clairement les choses, on s'est dit pendant toute la période de la formule 1+4, je sais que d'une manière ou d'une autre, les services étaient en train de se contrôler les uns les autres, suivant qu'on était de telle tendance ou telle autre. Mais tout ce temps, on n'a vu aucun service, par exemple, mettre au grand jour ce genre d'action pour dire peut-être que telle composante avec telle province était victime de ceci, était victime de cela. Mais du coup, ce sont les ONG internationales qui nous livrent un rapport assez accablant aujourd'hui, 2 ans après les élections, et pourtant vous êtes journaliste comme moi. Je sais que chaque fois qu'il y a des situations qui se produisent, la population essaye de saisir les journalistes et nous n'avons jamais manqué d'en parler. Merci. Je suis d'accord. Effectivement, je suis d'accord avec ce qui s'est passé, par exemple, dans le Bas-Congo. Ça, ce sont des faits qu'il faut comprendre parce qu'il y a eu des troubles. La police devait arrêter ce genre de mouvement et dans ces échanges, on devrait normalement s'attendre à des casses. Mais si le rapport est vrai, il peut l'être à 40%, mais pas à 100%.
Merci beaucoup. Juste un petit mot avant de passer à notre troisième thème, hein, Paulette Kimuntu. Est-ce que vous trouvez que tous les aspects ont été peut-être... on n'a pas. Est-ce que ce rapport a mis suffisamment d'accent également sur les exactions aussi des forces de sécurité qui étaient attachées à la garde de Jean-Pierre Bemba? Est-ce que vous avez l'impression que le rapport pointe plus du doigt les forces de sécurité actuelles ou ne met pas beaucoup plus d'accent également sur ne met pas beaucoup d'accent sur les exactions que commettaient aussi les gens commis à la sécurité du vice-président Jean-Pierre Bemba en attendant en suivant Anneke von Woudenberg par exemple?
Je crois que j'ai pas eu le plaisir de lire ce rapport de 87 pages, c'est ça, comme mon confrère l'a fait, mais le résumé qu'a publié les journaux, je crois que l'accent est beaucoup plus mis sur les exactions
des forces de sécurité actuelles.
Et je crois que le rapport est défini aussi par rapport au temps. Hein. Je crois que en 2006, c'est après les élections, ce rapport détaille ce qui s'est passé après les élections.
Deux ans après les élections,
je crois que l'accent est beaucoup plus mis sur les services de sécurité ou le service, je pense, de sécurité du gouvernement actuel.
Voilà. Est-ce que vous avez cette impression, parce que vous avez lu tous ces rapports, est-ce que le rapport n'est pas un peu déséquilibré en pointant plus du doigt les forces de sécurité actuelles plutôt que les exactions également qu'avaient commises les forces de sécurité de Jean-Pierre Bemba. On entendait aussi des témoignages, hein, des gens qui avaient été pris entre leurs mains et ils avaient quand même subi des tortures.
Oui, tout à fait. Je crois que le gouvernement a relevé les faiblesses que moi je partage aussi dans ce rapport, en épinglant par exemple l'incendie de la Cour suprême de justice. Effectivement, ça n'a pas été relevé dans le rapport. Il y a eu effectivement aussi beaucoup d'exactions qui avaient été commises par les éléments du MLC. En tout cas, avant qu'on en arrive aux affrontements, il était devenu vraiment difficile pratiquement de traverser cette partie-là du boulevard.
Devant le cimetière de la Gombrie.
Mais j'aimerais quand même préciser un élément par rapport à la situation du Bas-Congo.
Rapidement.
Le rapport dit que c'est vrai qu'il y avait un problème avec les militants de Bundu-Dia Congo, mais il a beaucoup plus souligné la disproportion de la répression qu'ont utilisé les éléments de l'armée, de la police qui ont été envoyés dans le Bas-Congo. Devant des adeptes du Bas-Congo qui n'avaient absolument pas d'armes et qui n'avaient que soit leur courage de résistance, ou bien de bois, ou bien juste des bâtons.
Mais il semble qu'ils avaient aussi des fusils, communément appelés poupou, donc des fusils artisanaux.
Bon, soit, mais devant des adeptes, en tout cas dans le rapport, on décrit par exemple des villages où des gens étaient rassemblés juste pour la prière ou pour leur réunion, comme ils en avaient l'habitude, mais où on a utilisé des grenades, on a utilisé des armes à feu. Et ça, ce n'est pas seulement le rapport de Human Rights Watch qui le dit, même le rapport de la MONUC l'a dit, le rapport de l'Assemblée nationale également l'avait dit.
Merci beaucoup, Félix Kabuzi. Donc, nous allons passer à notre troisième et dernier thème, qui est le refus du gouvernement congolais de recevoir en renfort aux troupes de la MONUC au Nord Kivu des casques bleus provenant d'un certain pays, sans préciser lequel. Au cours d'un point de presse tenu mercredi dernier à Kinshasa, le ministre des Affaires étrangères a affirmé que le gouvernement congolais a adressé une correspondance à ce sujet au secrétaire général de l'ONU, Alexis Thambo Mwamba, donne ici les raisons de ce refus au micro de notre confrère Pierrot Ilamegi.
Le gouvernement a décidé de donner son avis sur les troupes qui viennent dans notre pays. Et les faits sont extrêmement graves. Nous venions d'alimenter Rumangabo et les unités de ces pays-là ont laissé la libre voie pour que ce que nous venons de fournir et qui a coûté extrêmement cher soit pris par les troupes de M. Nkunda. Nous n'acceptons pas que l'on fasse chez nous n'importe quoi. Et désormais, nous agirons ainsi vis-à-vis des organismes comme la MONUC, nous agirons ainsi vis-à-vis des individus, nous agirons ainsi vis-à-vis des ministres des pays étrangers qui nous insultent. C'est-à-dire que nous prendrons la décision, par exemple, que tel ministre ne peut pas venir ici.
Bien que le gouvernement n'ait pas mentionné le nom de ce pays, notons qu'au cours de l'émission Dialogue entre Congolais, hier jeudi, le porte-parole militaire de la MONUC, le lieutenant-colonel Jean-Paul Dietrich, a affirmé que selon les informations dont il disposait, le pays que le gouvernement congolais ne voudrait pas voir envoyer des troupes au Nord Kivu pour renforcer celle de la MONUC, déjà sur place, n'était autre que l'Inde. Voilà. Comment vous réagissez par rapport à cette réaction du gouvernement congolais, Paulette?
Bon, je félicite d'abord le courage du gouvernement congolais. C'est un peu l'expression de notre souveraineté, hein, savoir dire non à certaines choses. Mais c'est que je ne comprends pas le soubassement. Après tout, j'ai l'impression qu'on avait une coopération assez approfondie avec l'Inde. C'était une coopération sud-sud. Je crois que notre président s'est rendu l'année passée en Inde. Et je crois qu'il y a beaucoup d'Indiens ici. Mais je ne sais pas le vrai soubassement, qu'est-ce qui s'est passé. Peut-être que le gouvernement pense qu'il y a un trafic quelque part, donc il a pris ses dispositions. Je ne pense pas que notre gouvernement ait pris ses décisions.
Le ministre Thambo Mwamba parle notamment de la perte de Rumangabo, hein, de la base de Rumangabo, où étaient entreposées beaucoup de munitions, d'armes que le gouvernement avait achetées à un prix élevé. Mais le gouvernement reproche au contingent qui était sur place,
le contingent indien,
oui, d'avoir laissé les troupes du CNDP récupérer toutes ces armes.
Il a peut-être raison de dire non, de choisir peut-être un autre contingent, c'est, je ne sais pas.
Mais qu'est-ce que le gouvernement pourrait proposer en échange, puisque ces contingents viennent avec leur matériel, des hélicos de combat et tout. Et quand on sait aussi que les Occidentaux sont assez réticents pour envoyer leurs troupes, l'Inde, c'est le plus grand contributeur de troupes à la MONUC.
soit peut-être qui dialogue un peu, qui parle avec le gouvernement indien ou avec la MONUC, qui essaye de parler franchement, hein, de taper les poings sur la table, de voir un peu s'ils peuvent arranger les choses. Les dialogues arrangent toujours.
Hein. Merci Paulette. Félix ?
Oui, je crois que c'est vraiment le droit de l'État, hein, de récuser tel ou tel pays lorsqu'il estime être dans son bon droit. Sauf que ça va retarder les choses, malheureusement, puisqu'on veut vraiment que les 3000 militaires en renfort à la MONUC viennent le plus rapidement possible. Autrement, si Kunda décide de rompre le cessez-le-feu, il risque encore de conquérir d'autres territoires. Donc je crois que laisser durer le temps par rapport à la présence de ces troupes en renfort risque d'être difficile aussi pour le gouvernement. Mais je pense qu'au-delà de ce qu'on a relevé sur Rumangabo, je crois que cela traduit finalement une certaine mauvaise humeur entre le gouvernement et la MONUC. Toute la campagne qui est orchestrée, soit dans la presse ou au niveau de la population contre la MONUC, on voit aujourd'hui à quoi ça arrive. J'ai comme l'impression qu'il faudrait absolument qu'on puisse clarifier les rapports entre le gouvernement et la MONUC. Moi, je déplore sincèrement qu'il y ait même des ministres ou même certains hommes politiques qui se permettent de doiter la MONUC. Je pense sincèrement que si nous étions la MONUC... si nous étions sérieux dans ce pays, nous devons reconnaître le travail que la MONUC a fait. Je me demande ce que nous serions aujourd'hui s'il n'y avait pas la MONUC, en tout cas à l'est du pays. Je me demande, il y a des
on l'a révélé. Mais vous voulez dire par là qu'il n'y a rien à reprocher
à la MONUC? Non, il y a des choses à reprocher individuellement à la MONUC. On peut avoir reproché, je crois, à un des responsables militaires indiens d'avoir fait des déclarations
soutenant Laurent Kunda. Est-ce que ce n'est pas aussi à cause de ça?
Ça peut être à cause de ça. Ce sont des déclarations, des positions individuelles.
Et d'ailleurs, la MONUC, j'avais reçu Alain Doss dans ce studio, le numéro 1 de la MONUC avait dit que les paroles prononcées, le parole de soutien prononcé par ce colonel indien engagé par la MONUC.
Mais justement, c'est ce que je suis en train de dire. Mais alors, par rapport aux bonnes relations, comme Paulette l'a dit ici, entre le gouvernement congolais et l'Inde, je crois que ça peut aussi perturber aussi les choses, puisque le gouvernement indien a même donné dernièrement ici des bus qui circulent, un crédit. Je crois que les bus de City Train sont fournis par l'Inde. Donc je crois que ça va poser énormément de problèmes. Et ce que moi je regrette, c'est que ça va retarder malheureusement la sécurisation de l'Est du pays.
Pascal Mansunga.
Oui.
Allez-y, votre réaction par rapport à la déclaration faite par le gouvernement congolais de ne pas accepter d'autres troupes indiennes pour renforcer celles qui sont déjà en Nord Kivu.
Je crois que le gouvernement congolais a donné une réaction qui est tout à fait normale, légitime. Le gouvernement ne peut pas fléchir parce qu'on lui tend un cadeau, mais si c'était un cadeau empoisonné, le gouvernement ne peut pas prendre. Ou imaginez-vous que le gouvernement congolais a besoin de ceux qui viennent justement l'aider. Mais quand on se rend compte tout de suite que un officier de l'armée d'origine indienne est en intelligence avec la rébellion, apprécie le travail de la rébellion, félicite la rébellion, mais ça doit révolter. Et on se demande à ce moment-là, quelle est la mission, effectivement, d'un contingent comme celui-là? Parce que, de toutes les manières, le contingent exprime l'expression profonde et l'expression intrinsèque qui est celle de son gouvernement, mais dans la mission onusienne. La réaction du gouvernement est tout à fait normale, parce qu'il faut aussi savoir que, imaginez-vous, j'allais dire, il faut aussi savoir que...
Rapidement.
La mission de la MONUC, c'est justement apporter la paix, nous aider à recouvrer la paix que nous n'avons pas. Malheureusement, aujourd'hui, la MONUC est cible de beaucoup de maux de la part de la population et de tous ces gens-là.
Merci.
Pourquoi? Parce que la MONUC n'arrive pas à faire ce que la population attend de la MONUC. Malheureusement, la population ne comprend pas le mandat qui est celui de la MONUC.
Voilà.
La MONUC a eu pour mandat, effectivement, d'assurer la paix, mais protection des civils, en même temps aussi, nous aider, mais sans avoir le mandat de riposter contre n'importe quelle agression.
Malheureusement, on n'a plus beaucoup de temps. On est arrivé à la fin de cette émission. On a compris ce que vous avez voulu dire. Donc, c'est par ici que nous terminons cette émission. Merci à notre consoeur Paulette Kimuntu, à notre confrère Félix Kabouzi et Pascal Manchimba d'avoir bien pu participer à cette émission. Guy Matela réalisé, Kikim Poutou, Karine Kaja, Pierrot et la Mégine ont préparé pour vous. Jean-Noël Mokondo était à la technique. Au revoir et bon week-end à tous.